Il est parfaitement 16h. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ça commence.
Taxi jaune, soleil bleu, du ciel vert, des palmiers. Les fontaines, les ronds-points, les avenues, on tourne en rond, là, on va où? Du calme. Ça va trop vite, ralentir.
C'est embarrassant, c'est cruel et embarrassant comme question. Comment le monde peut-il laisser faire cela? Question récurrente qui s'applique à des échelles très diverses avec le même caractère énigmatique. Mais comment peut-on, depuis 20 jours, attendre les comptes rendus des bombardements que subit la ville de Homs en Syrie? Si seulement c'était la mienne, on la dirait simpliste et naïve et question d'idéal. Mais c'est précisément celle d'une femme journaliste, grande spécialiste du monde arabe, reporter qui connaissait les risques encourus à témoigner des horreurs de la guerre avec exactitude et sans préjugés. Elle rajoutait qu'avant de partir, il s'agissait toujours de mesurer si l'histoire en valait le risque. Elle est morte hier sous les bombes qui tuent par dizaines. Faut-il souhaiter qu'elle ne le fût pas pour rien? Il est 16h01, on parle toujours d'où l'on parle. Vous écoutez France Culture et c'est pas la peine de crier. Quelle image pour tout à l'heure? L'image sera princière. Quelle histoire? On va où, là? Ce sera l'histoire d'un chevalier errant et utopiste post-époque et des lignes lumineuses qui se troublent devant nos yeux. Quel poème? Guy Vic, toujours, pour la fin. Avant tout cela, elle est présente. Le filet de voix qu'elle arbore cache mal la force qui l'habite et qui systématiquement sur scène ressurgit. Audrey Bonnet est assise devant des livres qui sont les siens et l'on sent à sa manière de passer de l'un à l'autre qu'elle a pour eux tendresse mêlée de reconnaissance. Celui-ci est paru en 2000 et l'histoire qu'il raconte commence 100 ans en arrière. Outomo Paris, le personnage principal, est un jeune homme qui vieillit en s'efforçant de remettre de l'ordre dans le monde. Audrey Bonnet déballe sa bibliothèque cette semaine, cette histoire-là d'Alessandro Barrico, quatrième moment.
Pour arriver à Shaftesbury, chez les Martins, il y avait un dos d'âne sur la route. Chaque fois, il était obligé de ralentir parce que le fourgon était rempli de pianos. Et chaque fois, il disait « dommage ». Un jour, il a fait demi-tour et il m'a dit « « Aide-moi. » Nous avons vidé le fourgon et posé les pianos démontés dans un pré à côté de la route. Ce sont des pianos à cadre en bois. Ils ne sont pas trop fatigants à déplacer. Ils nous les ont donnés exprès. Ensuite, Ultimo est remonté au volant. Il m'a dit de monter avec lui. « Tu ne dois pas avoir peur. C'est quelque chose de magnifique, » m'a-t-il dit. Il a pris son élan et s'est lancé sur le dos d'âne en accélérant au maximum. J'ai commencé à hurler quand nous étions encore dans la montée. Mais je ne hurlais rien de particulier. Lui, par contre, il est resté silencieux, tranquille, jusqu'au moment où nous avons été au sommet du dos d'âne. Et quand le fourgon s'est détaché du sol, alors il a hurlé très fort son nom. Ultimo Paris. Après ça, le fourgon était un peu déglingué. Quand nous sommes revenus en arrière, tout doucement, du sommet du dos d'âne, on voyait en bas les pianos, démontés, dans l'herbe. Des morceaux de piano posés en désordre au milieu d'un pré. On aurait dit un troupeau de je ne sais quoi qui paissait, tranquille. C'était beau. Ultimo a arrêté le fourgon. Nous sommes restés là, à regarder. « Pourquoi es-tu toujours triste ?» lui ai-je demandé. « Je ne suis pas triste. »« Si tu es triste. »« Ce n'est pas ça, » il m'a dit. Il m'a dit qu'à son avis, les gens vivent des années et des années, mais en réalité, il y a seulement une petite partie de ces années-là qu'ils vivent vraiment. Et ce sont les années où ils réussissent à faire ce pour quoi ils sont nés. Là, alors, ils sont heureux. Le reste du temps, c'est du temps qu'ils passent à attendre ou à se souvenir. Quand tu attends ou que tu te souviens, m'a-t-il dit, tu n'es ni triste ni heureux. Tu as l'air triste, mais c'est juste parce que tu es en train d'attendre ou de te souvenir. Ils ne sont pas tristes, les gens qui attendent. Pas plus que ceux qui se souviennent. Ils sont simplement loin. Moi, j'attends, m'a-t-il dit. Quoi? J'attends de faire ce pour quoi je suis né. Son idée, c'est qu'il est né, lui, pour construire une piste. Ça alors, il veut construire une piste pour les automobiles de course. C'est-à-dire que c'est une route où ne roulent que des automobiles de course, qui ne mènent nulle part, et même qui est fermée. On tourne et on tourne, mais on n'arrive nulle part. C'est quelque chose qu'il a inventé, qui n'existe pas. « Ce n'est pas vrai qu'on arrive nulle part, me dit-il. Il m'a raconté toute une histoire de son père et lui, qui tourne dans le brouillard dans une ville où toutes les rues sont perpendiculaires. Toujours ce père. Mais c'est peut-être vrai, ce qu'il dit, que tous les chemins sont circulaires et qu'ils ne mènent pas quelque part, mais à l'intérieur de soi. Parce que le brouillard de nos peurs est trop épais et les routes qui ont l'air de mener ailleurs sont des illusions.
Audrey Bonnet, c'est un extrait d'un roman d'Alessandro Barrico qui s'appelle « Cette histoire-là ». Une automobile sur la couverture, il va en être beaucoup question dans ce roman. Vous croyez à cette idée de, à un moment dans sa vie, faire ce pourquoi on est né et de la joie qui en émanerait?
Oui, j'y crois beaucoup. Après, cette chose-là, elle est jamais au même endroit. Enfin, j'ai l'impression que chaque jour, elle se déplace ou alors le matin, quand on se lève, on croit, on se dit « bon, aujourd'hui, c'est ça bon, ». Alors, ça ressemble à la chose pour laquelle on est né, mais c'est, voilà, c'est chaque jour. Et puis finalement, c'est pas du tout ça qui se passe, mais quand quelque chose arrive dans cette journée, qui pourrait se mettre à l'endroit de ce pourquoi on est né, on le reconnaît. La joie qui émane de ça, qui nous arrive dessus, on sait que c'est ça. Mais ça peut être rien, ça peut être juste un regard qu'on croise ou une parole qu'on entend ou si, quelque chose qu'on fait vraiment de ses mains, je sais pas. Un petit plat qu'on prépare, une chanson qu'on se met à fredonner ou alors ce sur quoi on est en train de travailler. C'est la joie, cet endroit-là, c'est une grande chance quand on peut reconnaître ça dans les jours, dans sa vie. On n'est pas toujours disponible à ça, à l'écoute de l'endroit où on est, en fait, de ce qu'on est et comment ça vient percuter à l'intérieur de soi.
Il y a quelque chose de très joyeux dans la littérature d'Alessandro Barrico, même quand il va dans ce qu'il appelle les brumes de la tristesse ou dans l'horreur, dans d'autres romans. C'est ce que vous aimez dans sa littérature ?
Oui, j'adore ça, j'adore comment il nomme ça. C'est-à-dire que tout d'un coup, il dépeint le tableau le plus mélancolique qui soit et il fait arriver les larmes ou le bord des larmes. Et puis, il y a une vague de joie qui arrive dessus. Enfin, il est toujours en train de faire s'embrasser ou se choquer la tristesse et la joie, enfin l'un va pas sans l'autre, c'est-à-dire qu'il faut que ça se réponde, il faut que ça s'agite ensemble, il faut que ça grandisse ensemble.
Qu'est-ce qu'on écoute avec Barrico ?
Nico, Chelsea Girls.
Here's room 506, it's enough to make you sick. Bridget's all wrapped up in foil, you wonder if she can uncoil. Here they come now. See them run now. Here they come now. Chelsea girls. Here's room 115. Filled with S&M queens, magic marker, oh, you wonder just how high they go. Here they come now, see them run now. Here they come now. Dear Undine, Ronis treated him so mean. She wants another scene. She wants to be a human being. Here they come now. See them run now. Here they come now, Chelsea girls. Pepe, she's having fun. She thinks she's some man's son. Her perfect loves don't last. Her future died in someone's past.
Demain, Audrey Bonnet conclura le déballage de sa bibliothèque par quelque chose qui aurait pu la débuter. Un comédien parle à un cocker de l'art de l'acteur, cet abandon tous les soirs, renouvelé. Le dieu abandon que l'on craint et que l'on adoube dans le même temps. Demain, Audrey Bonnet lit un texte de Pascal Rambert. Mais pour l'instant, levez les yeux, voilà la tour, tu la vois. Et ben voilà, elle est mal cachée dans la rue des archives, c'est le Polaroid. La petite était mauvaise, pas très disposée au mariage précoce, pas hyper pour le sexe payant. Elle en faisait baver aux nourrices et aux cuisiniers, aux gardes champêtres. C'était une sale petite gamine qui plaquait ses cheveux en arrière à l'aide d'une patte étrange, sa mère refusant fermement de les lui faire couper. À l'âge de 12 ans, n'ayant accepté aucune forme de compromission, aucun trottoir, aucune soupe, aucun discours fabuleux, on la fit enfermer dans le donjon de la rue des Archives. Parfaitement aux normes, donjon en pierre, quelques barreaux aux fenêtres, pas de chauffage électrique, quelques bûches de bois à porter au compte-gouttes. Elle durcirait comme ça. Elle se ferait des croûtes. S'il en fallait des comme ça, des heures comme ça pour lui mettre du plomb dans la tête, t'inquiète qu'on l'oublierait pas. Alors elle vécut seule, sous perfusion étrange pendant plusieurs années. Elle eut bientôt 18 ans et ne se laissait pas devoir le monde entre les barreaux. Le gars qui lui portait à manger, au lieu de lui enfoncer le plomb dans le crâne, lui livrait le plomb, comme ça, en lingots. Et la princesse, devenue grande, avait appris à en fabriquer des caractères d'imprimerie. Des petites lettres de plomb qu'elle collectionnait dans sa chambre où il caillait. Elle affectionnait les E. Elle aimait les E en plomb. Et le reste du temps regardait par la fenêtre. Comme on supporte mal de laisser sans prince une princesse même bougre, voilà qu'un type se mit à lui faire la cour, d'en bas, timidement, chaque jour. Il venait, pour peu de temps, mais chaque jour régulier, lui dire qu'il aimait ou quelque chose comme ça. La princesse restait muette jusqu'au jour où, l'ouvrant pour lui demander son nom, elle rougit, à réaliser qu'Eugène s'écrivait avec trois E.
So I put him down in the bathtub to all
Pour ce Polaroid princier, Mrs. Chanel avait pensé à Tiny Rims avec Cat in the Hallway. Moi, je pense à tout autre chose, à du papier. Aujourd'hui, paraît en kiosque le premier numéro de France Culture Papier, revue à la magnifique iconographie, qui a pour idée de donner à lire la radio que vous écoutez. Jean-Michel Dian, son rédacteur en chef, sera l'un des invités du rendez-vous de Laurent Goumard. Si ça peut vous mettre l'eau à la bouche, ça commence à 19h. À 16h17 seulement, deuxième partie de notre émission sur un plateau, un non-anniversaire sans gâteau et en avance. La Gaîté Lyrique, institution culturelle parisienne, se pose l'essentielle question du temps en interrogeant la création de maintenant à l'aune de ce qu'elle pourrait être plus tard. 2062, tu m'entends? Qu'est-ce qui s'y écrira? Comment pensera-t-on les arts? Aujourd'hui, la Gaîté Lyrique se propose de les envisager de façon horizontale, sans ignorer la spécificité de chaque discipline. Il s'agit de faire place surtout à l'expression de ceux qui créent. Dans cette riche programmation, on trouve Diario Utopico, une proposition collective qui s'appuie sur vous, Cyril Test, Jérôme Gamme et Vincent Lobeuf, brouillage des lignes, chevalier errant, langue trouée, augmentée, accélérée et défilante au mur, perception perturbée de la durée, une certaine disposition à l'hypnose. Vous êtes tous les trois nos invités cet après-midi. Bonjour et merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Nous n'avons d'autre choix que d'entrer dedans. Alors il va falloir vous répartir la parole, mais puisque ce spectacle, cette création se trouve à l'intersection de vos trois pratiques, de vos trois peut-être univers, est-ce que vous pouvez nous la décrire, cette intersection, à l'endroit où vous vous rencontrez pour ce projet?
Oui, Vincent Lebeuf. C'est une proposition de comment travailler ensemble, c'était ça en fait. C'est une proposition qui vient du musical au départ, donc... du collectif Motus, dont je suis le directeur artistique et un des compositeurs. Voilà, et on a, depuis 2 ans à peu près, on a contacté Cyril Test pour imaginer un spectacle autour de notre idée de Don Quichotte. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Qu'est-ce qui devient? Donc, on l'a contacté, il nous a proposé aussi de collaborer avec Jérôme Gamme pour le texte, et voilà, on a accepté. Et comment on a fonctionné? Comment les choses sont arrivées, c'est juste qu'on a proposé une musique, on a donné une musique, on a travaillé dessus, on a fait écouter, et petit à petit, la mise en scène et le texte sont arrivés. Je peux laisser la parole à Jérôme par rapport au texte, par exemple.
Par rapport à votre question, ce qui m'a intéressé, c'était de travailler avec des musiciens qui étaient sur le plateau, un metteur en scène, et ce qui m'intéressait, moi, c'était de... Ça m'arrive de faire des lectures performantes de la poésie, de ce que j'écris, seul, mais avec d'autres gens sur un plateau. Ce qui m'intéressait, c'est qu'ils allaient m'interrompre, que la musique allait participer avec moi de l'expérience du plateau, et donc de forcer mon écriture, ou de forcer ma performance à être avec, à l'intérieur, malgré, contre, en dépit. Et ça m'intéressait beaucoup. Ce qui rejoignait le désir du coup de travailler avec Cyril Test lorsqu'il est venu vers moi, c'était que cette confrontation serait confrontation au sens non agressif du terme, au sens au contraire productif, serait non pas mise en scène au sens déployé, montré, mais serait stage, je ne sais pas comment on dit ça en français, serait tridimensionnalisé dans un espace. Et ça m'intéressait parce que plutôt que d'illustrer de la musique, ou plutôt que d'avoir une musique qui m'illustre, ce qui m'intéressait, c'était d'écrire ou de continuer à écrire par d'autres moyens, à travers d'autres moyens, sous influence d'autres moyens, d'autres univers perceptifs.
Cyril Test.
Ce qui a été assez, pour moi, qui a eu pas mal de sens, c'est lorsque Jérôme Delormas m'invite...
Directeur de la Gaîté Lyrique.
Voilà, directeur de la Gaîté Lyrique, donc il m'invite pour un événement qui est 2062, et qui me pose comme question, voilà, qu'est-ce que toi tu vois, enfin, quelle résonance tu peux avoir sur la question de 2062. Alors je dis, déjà nous, moi je suis metteur en scène donc du collectif MXM, donc c'est déjà une équipe qui travaille ensemble. Et là, je, suite à une invitation de Vincent, quelques mois avant, parce que ça remonte déjà un long moment cette histoire, je me suis dit, alors 2062, ça peut être aussi le rassemblement, la question du rassemblement, peut-être à un endroit où justement on est dans une société qui petit à petit perd, se délite, je dirais, dans la question de l'échange. Je me dis, tiens, ça peut être une question assez utopique de pouvoir, à un moment donné, travailler avec plusieurs personnes dans des mondes et des univers, des grammaires et des factures différentes, et d'essayer de composer comme ça un objet cohérent avec un groupe, les Motus, le groupe MXM. Donc c'était quand même une somme de collectifs, plus un artiste... auteur,
qui est collectif performer. À lui tout seul.
Ouais, qui est un collectif à lui tout seul. Jérôme, que j'avais pu rencontrer par ailleurs dans un autre lieu. Donc voilà, ça a été pour moi une chose qui avait du sens. Il n'y avait pas de discours derrière ça, il y avait juste une tentative, une expérience de pouvoir collaborer, de travailler ensemble, en sachant qu'on arrive quand même tous trois, ces trois entités, enfin en tout cas, voilà, d'univers assez différents. Donc ça a été la question, on a mis la question de Don Quichotte au milieu, qui était au départ quelque chose d'effrayant pour moi, parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'ai à dire, moi, sur Don Quichotte? Je ne sais pas, mais par ailleurs, c'était intéressant, justement, de
quand voir. Vous dites qu'elle est au milieu, c'est-à-dire que c'est vous, Vincent Leboeuf, qui arrivez avec cette figure-là, ouais. Et aucun de vous deux, Jérôme Gall et Cyril Teuf, n'avait prépensé quelque chose.
Absolument. Comme ça. Tout à fait. Ouais. En fait, c'est le collectif, j'avais proposé ça à mon collectif, donc je vais citer leur nom quand même, aux trois autres compositeurs, c'est Guillaume Contré, Olivier Lamarche et Nathanaël Raboisson. Et on a déjà fait un projet qui était purement musical sur Don Quichotte, il y a deux ans. Purement acousmatique, c'est-à-dire pas de musiciens sur scène, la musique faite en studio, avec les sons de toutes origines. C'est nos spécialités un peu de faire ça. Et donc on s'est dit, c'était un beau projet, c'était notre premier projet collectif. C'était un beau projet, mais on avait envie de voir, parce que c'est un personnage tellement énorme, c'est un roman tellement énorme, on voulait collaborer avec d'autres personnes pour essayer de voir comment autre chose que le concert, voilà, c'était ça l'idée, autre chose que le concert, pas un spectacle forcément non plus, je pense pas que, pas forcément de la poésie sonore non plus, mais un entre, pas un entre, parce que c'est pas non plus complètement flou, hein, c'est, mais une mise en résonance de chaque univers. Finalement.
Qu'est-ce que ça draine, cette figure de Don Quichotte aujourd'hui? Parce que même si on se projette dans 2062, on est en 2012, 50 ans avant, qu'est-ce que ça dit aujourd'hui, Don Quichotte?
Je pense pas que ça... Enfin, je sais pas si ça dit une chose que tout le monde partagerait. C'était lorsque Cyril m'a parlé de ça, j'ai demandé quelques jours pour réfléchir, parce que je me suis dit, Don Quichotte, le personnage et le roman, et surtout le roman, n'ont besoin de strictement personne. C'est un astre qui tourne et il va tourner pour l'éternité. Et ce serait de ma part, en tant qu'écrivain, je parle personnellement, un peu aberrant de venir rajouter une couche sur... Donc l'idée, c'était de dire, pour venir à votre question, qu'est-ce que ça représente pour moi? Ça représente une machine d'écriture. Ça représente, en plus d'une série d'autres choses, ça représente une méthode. Véritablement une méthode. C'est pour ça que j'ai insisté là-dessus, parce que ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait de travailler à trois avec un metteur en scène et avec des musiciens sur un plateau. Ça représente une méthode, non pas simplement d'écriture, mais de perception, j'allais dire de respiration. Il est, c'est ce que j'essaie de dire dans le court texte introductif, il est représenté comme le parangon de la personne qui est à côté de ses pompes. Et c'est ce dont moi j'ai besoin aujourd'hui. J'ai besoin d'une case vide, j'ai besoin d'un pas de côté pour négocier toute la violence qu'il peut y avoir, pour négocier l'asphyxie que ça peut générer chez moi. Et donc, c'est plutôt ça. L'idée, c'était de voir comment est-ce qu'il peut, dans sa façon d'écrire et d'être fou, et de ne pas l'être du tout, représenter une façon qui peut, moi, m'aider aujourd'hui, et j'espère les gens qui viendront voir ce spectacle, à négocier au sens à rester en vie. À rester en vie. C'était l'idée de vie qui m'intéressait. Et ça, je crois que c'est du coup inactuel et intemporel. Et donc ça fonctionnera. Je ne sais pas trop ce que c'est l'idée de 2062. Je n'ai pas toujours compris ce truc. Mais ce qui m'intéressait, c'est que la méthode Quichotte, telle que je l'aperçois, je crois qu'on en a besoin à toutes les époques et particulièrement aujourd'hui.
Vous parlez de cases vides et vous, Cyril Teuf, vous dessinez des sortes de potentielles maisons autour des interprètes, autour des musiciens, autour de Jérôme Gamme. Vous dessinez un espace qui est très bienveillant, en tout cas moi je l'ai trouvé très bienveillant, et qui vient de nous englober nous aussi.
C'était, en fait, c'était travailler sur l'architecture au moment du récit. C'est-à-dire à un moment donné, il y avait à la fois, c'est, ça va être, paraître une hérésie pour certains, mais moi, c'était contourner Don Quichotte. Donc, travailler sur le contour de Don Quichotte. Travailler, et plus que ça, c'était aussi travailler sur le contour de la proposition de Vincent, c'est-à-dire, à un moment donné, avec deux musiciens sur le plateau, et d'essayer de voir comment on crée le cadre, un cadre à cette question-là, en fait. Et pareil pour Jérôme, lorsque Jérôme a décidé de prendre le texte à bras le corps et cette performance-là. Donc, j'ai dit, à ce moment-là, donc, on va être là simplement pour éclairer, je dirais. C'est un travail sur la lueur, en fait. La question, c'était sur la lueur. Pour moi, les mots étaient architecture. Et je me suis dit, je vais partir de... Le mot, avant tout, pour moi, c'est une ligne courbe qui prend des formes et des croisements. Et je vais des fois l'attendre, je vais la tirer. On va essayer comme ça de créer des lueurs, des espaces plus proches, je dirais, de la lueur que de l'éclairage. Pour moi, je pensais une lueur dans Quichotte, en fait, en mon sens. Et je m'étais dit, tiens, comment rester, pas en retrait, mais quelque part, comment l'image s'efface aussi. Pour la performance, c'est la performance avant tout qui m'a intéressé au-delà de l'écriture du mythe de Don Quichotte, en fait.
Mais pourquoi est-ce qu'à un moment donné ces lignes se troublent ? C'est-à-dire que, en effet, vous les tirez, vous cadriez cet espace, vous offrez quelques lueurs qui permettent, en effet, de simplement souligner ce qui se passe ou ce qui ne se passe pas au plateau. Et à un moment donné, les lignes se troublent au point où on se dit est-ce que je vois ce que je vois ?
C'est peut-être la limite du cadre, comme on dit. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a cette chose... Je pense que c'est un objet, pour moi, qui est très proche de la question de la mémoire. Donc, à un moment donné, c'est aussi la question... Je pense que ce soit Vincent et le motus dans la composition ou que ce soit Jérôme dans l'écriture, à un moment donné, je pense que l'image n'avait pas lieu d'exister autrement que par les mots et que par l'oreille. C'est-à-dire que j'avais envie qu'on entende l'image plus que ce qu'on la voit. Et forcément, à un moment donné, ça crée un trouble. Bon, moi, c'est assez troublant d'être à cet endroit-là. Je pense que simplement, c'est cette forme de myopie aussi pour moi. C'est-à-dire, à un moment donné, l'utopie, c'est une forme de myopie aussi, quoi. Donc, il y avait quelque chose aussi qui se floute. Comme par moments, on amène des éclairages avec, justement, autocité Julien Boisard, mais dit tout un Lopez qui travaille avec moi sur ce projet-là. Il y avait aussi cette... À force d'observation, peut-être que l'image se déprécise, en fait. Et c'est ça qui m'intéressait, c'est d'arriver à un moment donné à flouter de plus en plus le récit, parce que pour moi, c'est flou dans Quichotte, en fait. C'est très, très flou.
Peut-être que sa vérité se trouve là, si il y a vérité.
Si vérité il y a, ouais.
Bon. Plan général. 1. Départ pour hôtel, ville, bureau, voiture, oreille, chantier. Aéroport énorme, centre commercial. Job, quel job, avion de nuit. Fait carrément autre chose. Les lieux de son job mènent à un autre angle. Détails zoomés, du figuratif au pur optique and back. Du sonore aussi. 1. Aéroport, description via les matières plus les sons. Avion. Hôtel plus bruit de dessin animé plus pub plus insurgé en TV. Égypte, Libye, Tunisie. Réunion plus femme. Voiture de location, une noire sur goudron. Visite au supermarché, cocktail, pharmacie, drugstore, nightclub, dîner, départ, avion. Mais tout d'un coup, ça adhère plus, glisse dans le camaïeu, l'image devient floue, passe à la limite de ce monde dont le détail devient... Bon. Reboot, fonction reset, plug and play. Bon. Faudrait trouver des entrées en matière, des entrées de biais comme ça, faudrait... Zoom maximal, cadre flottant. Ça ripe un peu, ça coule par le milieu, ça suinte en dedans, par le son, les yeux. Du calme. Reprenons. Original soundtrack plus bande-son, la VO sous-titrée plus l'écrit, ça donne quoi? Ça donne bruitage à la radio plus montage. Bruit du montage, zoom audio. Ou théâtre plus coulisses plus image, histoire plus effet. Ça donne son, lit. À même à travers tout le reste, ça donne écrit. Alors je vois, je prends dans le livre en course, à maquette, comment ça, son plan? Non. Un fragment? Non. Un germe? En fait, voir les photos comme ça, les travaux filmés, réapprendre à écrire. Non, pas ne pas filmer, ne pas trop voir, en fait. Click here, zoom out.
Jérôme Gamme, la première fois que je vous ai vu lire, c'était au Lila, à l'espace Chiasma, et je me suis dit, dans cette écriture, il y a des machines de cinéma. En tout cas, elle contient sans aucun mal le cinéma. Est-ce que vous êtes interrogés tous les trois sur le film maudit de Terry Gilliam autour de Don Quichotte ?
D'abord, je veux dire que je suis content que vous me disiez ça, parce que c'est ce que j'essaie de faire. Donc Et ensuite, sur les films, oui, j'ai regardé, quand j'ai écrit, j'ai regardé beaucoup tous les films qui ont été faits, etc., notamment Le Maudit de Terry Gilliam, mais celui qui m'a vraiment retenu, c'est celui qui est dans le texte, c'est celui de Wells, dont peut-être on parlera tout à l'heure. Celui de Gilliam, à part le fait que c'est entre guillemets maudit, m'intéressait sans doute moins que celui de Wells, parce qu'il y avait moins l'histoire du cinéma. Il y avait l'histoire d'un problème, l'histoire de ce que c'est que financer un film, etc. Et puis surtout sur celui de Wells, il dure sur 25 ans. Wells, il fait ça jusqu'à la veille de sa mort. Il y a quelque chose à la fois très beau, très désespéré et donc très, très, très excitant d'une certaine façon.
Pourquoi est-ce que Wells vous intéressait alors ?
Parce que Wells est fou. Il a fait ce truc complètement en pirate. Lorsque j'ai regardé un peu, il a accepté des cachetons à Londres, à New York, à Los Angeles. Il n'y est pas allé, il a pris le pognon et avec, il est allé tourner Don Quichotte en Italie, en Espagne, au Mexique. Des bouts de trucs. Et je crois que ce qui est très très touchant, c'est que, comme s'il avait intuit, sans le dire forcément, que c'était sa façon, ce tournage qui n'en finit pas, pas du tout comme une analyse qui n'en finirait pas, une psychanalyse, mais ce tournage était sa façon à lui de remonter son réveil pour faire d'autres choses. Et pendant qu'il fait Don Quichotte, il fait le procès, il fait toutes sortes de choses qui sont merveilleuses. Comme si c'était sa façon à lui de mettre ses doigts dans la prise et de surbrancher. Surbrancher sur quoi ? Sur la productivité pure de cette histoire, qui est très stimulante. Et donc j'y entendais un truc qui ressemblait à ce que j'essayais moi de mettre en place. Une machine, une machinerie. Comment est-ce que j'apprends à écrire dans Don Quichotte et comment est-ce que j'apprends à écrire dans les mots de Wells en train d'essayer de filmer Don Quichotte, parce que c'est du cut, beaucoup de cut de ses lettres, lettres à son acteur, lettres à son technicien, etc.
Là, dans ce texte, on dit il faudrait trouver une entrée, il faudrait trouver une entrée en matière. Est-ce que ça veut dire que vous avez eu du mal à la trouver ?
Plus que du mal. Le début, c'était ce texte-là, c'est comme une espèce de... Ça me fait penser à la Kaaba. C'était une pierre opaque. C'est très très dur de la traverser. On peut la mimer, on peut l'illustrer, et c'est très bien, mais c'est pas du tout ce que j'avais envie de faire. On peut la prendre sérieux, on peut en faire une pantalonnade, c'est pas non plus ce que j'avais de faire. Donc je me suis dit, je vais parler de cette difficulté-là sans en faire non plus un truc trop méta-poétique. Et en fait, je vais rebondir dessus. Je vais essayer, je vais rafler, je vais tourner autour. Et puis, n'y arrivant pas, je vais rebondir. Mais justement, cet échec aura peut-être quelque chose de créatif, dans le sens où le rebond, le texte final à la fin du spectacle, est dû à mon essai de traverser Don Quichotte. Cette traversée, j'y arrive un peu, mais pas complètement. Parce qu'on ne peut pas. Cette œuvre n'a besoin, une fois de plus, de personne. Elle a besoin de lecteurs, essentiellement. De lecteurs, mais pas forcément d'interprètes. Tout le lecteur sait très bien de l'interpréter, mais certainement pas d'un pote sonore qui va venir faire quoi que ce soit. Autour ou sur, ou un petit dispositif qui a tourné en rond très vite. Donc l'idée, c'était de dire, je vais tourner autour, comme une luciole, sur une et partir à moitié cramé sur le côté.
On l'entend, ça bouge énormément dans le texte de Jérôme Gamme, et ça bouge aussi dans sa façon de le dire. Ça bouge énormément dans la musique que vous proposez, Vincent Leboeuf. Il y a beaucoup, beaucoup de mouvements. Oui. Est-ce que c'est pour toutes ces raisons qu'il y en a peu au plateau ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est complexe, c'est quel mot pour définir ce projet. Sinon, c'est pas une performance, c'est pas un spectacle. D'ailleurs, tu le dis à un moment donné dans le texte.
Mais on a l'impression que c'est pas nécessaire. Moi, j'ai l'impression que vous êtes très paisibles tous les trois avec le fait que ça ne se définit pas.
Exactement.
Absolument.
Exactement. Et du coup, je trouvais que c'était. Moi, j'avais vraiment cette. Que ce soit Vincent avec les Motus ou Jérôme a commencé à écrire. Moi, j'ai beaucoup attendu, j'ai beaucoup écouté.
C'est pas la position la plus facile.
Non, c'est pas la position la plus simple. Et en même temps, je pense que l'immobilité, j'aime bien la phrase de Bresson, sois sûr d'avoir usé toute l'immobilité du silence avant de prendre la parole. Et je pense que voilà, j'ai fait l'expérience avec ça. C'est-à-dire, à un moment donné, d'essayer d'être très en observation de ce qui se produit au plateau. Et il n'y avait pas nécessité pour moi, en tous les cas, de créer une dramaturgie du mouvement, puisque là, on rentrait dans une théâtralité qui n'était pas juste. Du coup, je pense que ça demande un autre endroit d'écoute, puisque l'image est quand même extrêmement lente également. Elle bouge que très peu. Et il fallait bien, quand tu parlais de lucioles qui tournent, il fallait bien des points qui tournent, des points qui gravitent, des points en révolution et d'autres qui puissent rester statiques pour avoir des repères. Et je pense que nous, on s'est calé. Je dirais qu'on était un peu, s'il y avait une montre avec l'aiguille et les chiffres, nous, on est le point de départ, celui qui va faire tourner l'aiguille et puis après, il y a les chiffres. Mais en aucun cas, j'avais aucune nécessité de créer du mouvement ni du réalisme à l'intérieur de ça. fatalité pour moi. Ça aurait été quelque chose de fatal, de vouloir essayer de tenter d'introduire, en tous les cas, quelque image narrative ou réaliste à l'intérieur de ça.
Vincent Leboeuf, tout ce mouvement, de quoi Jérôme Gagne disait il faut traverser Don Quichotte. Votre musique, elle est passablement traversée. Elle est traversée par quoi ?
Elle est traversée par plein de choses. Hein. C'est justement par un imaginaire. Vous parlez de mouvement, par exemple, électroacoustique. Enfin, la musique a du mouvement réel, du mouvement spatial, mouvement interne aussi. On peut avoir des espaces très lointains, des espaces très proches. Et on travaille avec ça. Tout ce qui est partie électroacoustique, c'est un temps très lent, même s'il y a du mouvement à l'intérieur. Mais on forme des... pas des paysages, non, plutôt un temps lent, justement. Un imaginaire, parfois cinématographique aussi. D'ailleurs, il y a des passages qui sont vraiment... que Jérôme a très bien saisi, je ne sais pas comment, si c'est un hasard ou si c'est... parce qu'on peut utiliser les sons du quotidien, par exemple. Donc, c'est une manière de monter les choses. À la fois, on part du cinéma et on va vers l'abstrait. Ce mouvement est aussi à l'intérieur de ça. Donc là, c'est une partie de la musique. Il y a l'autre partie qui est aussi la partie... c'est pour ça que moi, j'avais souhaité de rajouter des instrumentistes sur scène. Donc là, c'est une partie plus fragile et à la fois plus, c'est un peu le vivant pour moi. Un temps très long, très lent. La possibilité d'un temps long et d'un temps lent avec l'électroacoustique. Et le vivant rapide, un peu incertain, un peu fragile parfois. Donc il y a aussi deux histoires dans la musique, plus les autres histoires. Donc c'est un peu une superposition d'histoires, ce Don Quichotte.
Il y a une partie du son qui semble parfois venir de derrière nous, au point où on se retourne. Ça peut faire peur. Est-ce que ça participe de cette même envie d'un espace englobant, d'un espace qui dessinerait tout autour, Cyril Tess ?
En fait, s'il y avait un mot, je pense là, on crée des mots, quoi, au bout d'un moment, parce que j'ai pas voulu trop nommer le travail. Et en réalité, ce que je réalise là, c'est que pour moi, le travail qu'on a mis en place, c'est comme si vraiment j'ai côtoyé de très près des architectes. Qui ont une partie à un moment donné qui est la partie du calque, c'est-à-dire le montage du plan. Et cette partie-là où on commence à tracer les traits avec, je me rappelle puisque j'avais travaillé là-dessus, avec les 3 mm qu'il fallait respecter sur les chiffres, sur les lettres pour pouvoir dessiner. C'était encore à l'époque où on faisait de l'architecture avec un crayon. Et ça permettait de pouvoir englober toute la pensée, puisqu'après, quand il y avait le client qui allait voir sa maison, il pouvait rêver à l'intérieur. Ça, en tout cas, ses instants de vie. Et je crois qu'en fait, ce projet-là, ça a été ça. C'est-à-dire de créer une architecture. Mais pas l'architecture finie, je dirais, mais une architecture sur calque, sur plan, dans laquelle, à un moment donné, on peut englober l'imaginaire de chacun. Tout le monde peut entrer à l'intérieur. Il s'avère aussi que dans le dispositif, la musique est extrêmement répartie en volume dans tout l'espace. De ce fait, il y a toute la partie arrière, je dirais, celle qu'on ne voit pas, qui vient derrière nous. J'avais envie de la laisser, en tous les cas, à l'oreille, et de traiter l'extension jusqu'à 3 points. Je dirais que l'infini, il naît du fait qu'on n'a pas, on se retourne pas. Je pense que la tête, on peut pas la retourner à 360. Donc le point qui est derrière moi, il faut que je continue d'imaginer. Donc il y avait cette question-là. Je pense que, en tout cas, si on parle d'englober, j'ai le sentiment que ça a été pour moi vraiment de tirer vraiment un plan. Créer, comme on parlait de maison tout à l'heure, créer un plan d'architecte dans lequel, en tout cas, qui pourrait englober toutes les pensées de chacun. C'était ça un peu l'esprit. D'où le fait de rester quand même très en retrait. J'ai pas choisi les papiers peints, j'ai pas choisi les couleurs des volets. Enfin, il y avait quelque chose de cet ordre-là, de pouvoir laisser ça au spectateur. Et je pense que l'immersion, elle peut naître dès l'instant où nous, on reste incomplet. Ça, c'était fondamental et ça fait partie aussi de notre travail. C'est cette incomplétude qui permet au spectateur de toutes ces jointures, de continuer de, au fond. C'est pas nous qui amenons l'immersion, mais c'est eux qui, petit à petit, je l'espère, en tout cas, s'immergent de par leur propre écoute.
Il y a un relâchement, en fait, dans l'écoute quand on est face à ce spectacle-là qui peut avoir quelque chose de l'ordre de l'hypnose. En tout cas, on n'a pas peur de devenir mou, au sens beau du terme, et du coup, de se laisser aller à la fois dans ces traits qui sont tirés, à la fois dans ces mots qui sont prononcés, à la fois dans cette musique qui est jouée. Est-ce que c'est quelque chose que vous craignez ou au contraire que vous souhaitez?
Pour ma part, la question de... Après, je vais laisser mes camarades parler, mais pour ma part, c'est un trajet de longue haleine, de vouloir aller, de tendre vers la question de la contemplation dans une société comme la nôtre aujourd'hui, et avec les outils qu'on utilise aujourd'hui, tant la langue que la musique, que l'image. On est dans un espace productif aujourd'hui. Donc moi, j'aime bien traiter, en tous les cas, le plateau de la même manière que quand je vais me balader en forêt. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire, à un moment donné, de prendre le temps, de lâcher quelque chose, et de ne pas vouloir, en tout cas, être possessif du sens. Je comparerais ça, pardonnez-moi les images, mais j'aime plus pêcher le sens que le chasser. Donc, à un moment donné, ça veut dire qu'il faut attendre. Il y a une question avec le temps qui est fondamentale, et d'accepter de lâcher quelque chose pour ça. Et donc, ça revient au battement de cœur, en fait. C'est-à-dire de ralentir son battement de cœur, si on veut un temps soit peu, ne plus s'entendre, mais d'essayer d'écouter au-delà de soi, quoi.
Ralentir, c'est aussi une des injonctions qui est prononcée au moins une fois, voire deux, voire trois dans votre texte, Jérôme Gamme.
Oui. Mais oui, c'est vrai. Par rapport à ce que vous disiez sur mou, devenir mou, ce rapport à cette chose-là, moi, ce qui m'intéressait beaucoup dans cette histoire, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur le cinéma, c'est le fait que, comme Don Quichotte a été, comme texte, comme mythe, a été quelque chose qui est parti dans toutes les directions artistiques possibles. Parce qu'un passage du texte où je cite le nombre de peintures, de trucs et de machins qui ont été faits. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de me servir de ça pour parler du cinéma, parler de l'image. Qu'est-ce que c'est qu'une caméra littéraire? Qu'est-ce que c'est qu'une littérature qui apprend à se faire dans la contemplation des images, des plans séquences, du cinéma? Et pour donner un tour de vie supplémentaire, qu'est-ce que c'est qu'une littérature qui apprend à s'écrire en lisant, par exemple, comme je l'ai fait, les lettres d'un metteur en scène comme Wells qui parle de ses difficultés de faire un film. Et toutes ces tangentes, toutes ces... Quel est le contraire d'un trait droit entre deux trucs qu'on dit, prends pas trop... Tous ces détours créent un état d'esprit, créent un état d'écoute qui fait qu'il faut qu'on suive la ligne brisée dans tous les sens et qui peut calmer un peu la perception. Toutes ces choses détournées crée en plus de la mise en scène dont on vient de parler, en plus du son, etc., quatre points, crée toute cette façon qui consiste à dire ce dont on va parler là, c'est d'une série d'ellipses, c'est d'une série de tangentes. Pour parler de Don Quichotte, je vais parler d'Orson Welles. Pour parler d'Orson Welles, je vais parler de... Et à la fin, quand j'aurai parlé de ça, je vais parler de partir un peu en vrille dans un autre sujet, parce que c'est un peu comme le soleil, je ne peux pas regarder cette chose-là droit dans les yeux. Je peux la regarder pour l'aimer, je peux la regarder pour la lire, et c'est ce que je fais. Mais ensuite, ce que je voudrais montrer, c'est ce qu'elle me fait à moi. Qu'est-ce que ça me fait, cette histoire-là? Ça me malaxe, ça me soulage, ça m'excite, ça me stimule. Et donc, ce que vous venez de dire sur la mollesse, c'est intéressant, parce que c'est aussi le corps en train d'être perçu, et le corps en train d'écrire ou de percevoir. Donc, dans ce sens-là, c'était intéressant pour ça. Les détours, c'est une machine à détours, à créer du détour.
Cependant, il y a une série de latitudes, longitudes, je ne sais pas quels sont les mots scientifiques pour le dire, ouais, qui cherchent à savoir où on est, malgré tout, qui cherchent à dire où on est.
L'idée, c'était de prendre, j'ai pris toutes les coordonnées concrètes, quoi, précises, de tous les points, enfin, de pas mal d'endroits où il va, lui, Don Quichotte, dans son parcours. Pour montrer, vous vous souvenez, quand on était des gamins, il y avait des numéros, il fallait aller d'un endroit à un autre, et à la fin, il y avait un escargot, un machin. J'avais envie de montrer l'aspect fantomatique de son parcours, tout l'air qui déplace, toute la surface qu'il parcourt. Pour montrer, une fois de plus, les effets. Non pas tant la cible, je ne vais pas attraper le lapin, Don Quichotte, avec mon fusil littéraire, ça ne sert à rien, c'est con et c'est impossible.
Et d'autant que Cyril Tesse vous en voudrait parce qu'il ne veut pas chasser.
Qui plus est, on était carrément synchrone là-dessus. Mais ce que j'avais envie de voir, c'était voir de près au microscope les vagues que ça fait. Les vagues et la magnifique folie productrice de tout ce parcours, et de le mettre en série.
On va où, là? Oui, oui. Ça s'écrit comme ça se voit, ça s'entend. Ça s'écrit comme ça se ressent, comme ça colle aux yeux. Ça attire un peu sur les yeux, dans les doigts, dans les joues. Ça s'écrit, ça se prononce comme ça se prononce. Ça se ressent comme ça tire un peu sur les yeux, là. Ça impressionne les doigts à l'oreille qui voit, dans les mots qui voit. Mais qu'est-ce que vous en sortez? Vous tournez en rond, on dirait. Comment est-ce qu'on dit vous? Comment est-ce... Oui, ça s'écrit comme ça se prononce, ça se ressent. Comme un appétit, comme en arrière, en fait. Comme autour des aspérités, comme ça commence. Comme on en a envie.
C'est un texte qui s'interroge tout le temps. J'ai l'impression que la musique aussi et l'espace aussi se cherchent. Il est inquiet, mais il est inquiet assez tranquillement. Tout est inquiet, mais assez tranquillement. Donc c'est une sorte d'inquiétude plutôt positive. Vous vous déplacez, Jérôme Gamme. Je ne sais pas si c'est vous qui vous déplacez ou c'est Cyril Tess qui vous a demandé de vous déplacer. En tout cas, assez souvent, quand vous lisez, la feuille vous cache.
Oui. La feuille me cache parce que j'ai besoin d'être droit et d'être parallèle au micro. Et je ne peux pas incliner ma tête vers le bas ou etc. J'ai besoin d'avoir... C'est comme une bouche d'échappement, un tuyau d'échappement dans un moteur, quoi. Il faut que la bouche et la trachée et la colonne vertébrale soient bien pas pliées. Et donc, c'est comme ça. Ce n'est pas pour me cacher. Il se trouve que ça obture ma tête. À la rigueur, ce n'est pas plus mal, en fait. Ça ne me dérange pas.
Ouais, puis c'est bien par rapport à la question de Don Quichotte. Il n'y a peut-être pas de visage.
En plus, oui.
Et
ouais.
Puis après, il y avait aussi une chose qui était intéressante. C'était d'amener Jérôme... Parce qu'il parle, donc il est sur un micro, voilà, sur pied, mais il est également avec un HF, là où tu es amené à te déplacer, en tous les cas, et de créer un dispositif pour Jérôme qui le mette, il a accepté le deal, c'est-à-dire, est-ce que ça ne te dérange pas de tous les textes sont lus en temps réel, également projetés, puisque
quand Cyril m'a dit, tu pourrais lire sur le mur, j'ai vraiment été très excité, parce que c'est une des choses que certaines fois de lire les pages jaunes ou de lire enfin d'arrêter d'être l'auteur qui est en train alors lire le mur ça m'a vraiment beaucoup plu.
Pourquoi?
Mais du coup ça a amené aussi la question de est-ce que c'est les mots qui obligent l'auteur à se déplacer ou est-ce que c'est lui qui en se déplaçant. Moi j'ai amené un dispositif qui permettait avec l'équipe de faire en sorte que ça mette en danger en tous les cas l'espace de Jérôme à des endroits où il a nécessité de confort aussi, mais il y avait cette chose de, en plus, qui tourne autour de lui, quoi. Il y a quelque chose qui tourne. Et qui, en mon sens, j'aime à l'idée qu'aujourd'hui, le texte su est quelque chose pour moi qui me dérange aujourd'hui. Il y a une question de la mémoire qui me pose question. Et là, de par toi, ta manière de prendre la parole avec ton écriture, et à la fois nous, le dispositif qui commence à se mettre en place, il y avait une chose qui était très intéressante pour nous, c'est que le spectateur avait à la fois les manques que crée la langue de Jérôme. C'est-à-dire que tu travailles vraiment sur, on peut appeler ça, chacun va avoir ses mots, mais sur un bégaiement du sens, quelque chose qui se déstructure dans la langue.
Ça c'est les gestes qui passent pas à la radio.
Voilà. Et en même temps, on a le texte qui est là aussi pour combler les manques. Et inversement, il y a aussi une traduction en temps réel de ça.
Le coup du mur était important pour moi parce que la première chose que j'ai dit à Cyril, c'est que je suis pas un comédien. Et que je n'ai pas envie de l'être. J'ai envie d'être dans cette situation avec un metteur en scène de théâtre et des musiciens, comme un lecteur de poésie. Et je ne vais pas apprendre des choses par cœur, je ne vais pas interpréter. Et donc, lire sur le mur, c'était lire tout court. Lire encore. Oui. Et après, la notion de lire sur les murs, c'est comme si le texte ne m'appartenait pas. Il ne m'appartenait pas et il passe en plus, il passe très vite et je vais en attraper des bribes. Et ça, c'était très important pour toujours travailler cette notion de traverser Don Quichotte plutôt que se l'approprier.
Mais justement, pour vous qui introduisez des traversées à l'intérieur même de votre écriture, il est déjà présent en fait ce mouvement, pas celui-ci, mais il y a déjà un mouvement dans votre écriture.
Ouais.
Et là, il y a un autre mouvement qui se surimprime, qui est celui qui est dû à Cyril Tess.
Oui.
Dans quelle mesure ça change votre rapport à l'écriture? Je ne sais pas si je suis claire. Mais...
Tout à fait. Ce que vous dites, en plus, c'est très important parce qu'il se trouve que c'était une belle, très belle rencontre avec Cyril Tess, avec les Motus aussi. Et il y a cette relation à la mise en espace, à la scénographie, à la mise en scène, qui m'a beaucoup plu. J'avais très envie de travailler à l'intérieur du plateau. Dans mes livres précédents, j'ai travaillé avec des cinéastes, je suis allé voir des cinéastes de près, des vidéastes de près, des peintres de près, pour voir comment ils travaillent. Comme si un peintre va m'apprendre à écrire. Je suis allé en Angleterre faire du travail pour aller apprendre une autre langue. Et là, j'avais très envie d'être sur un plateau de théâtre, mais pas comme comédien. C'était un peu casse-gueule. Or, il l'a accepté très bien, à son équipe aussi. Et en étant pendant 2 semaines de répète sur le plateau, j'ai pu voir la grammaire de la mise en scène. Or, cette grammaire me parle directement pour le livre que je suis en train d'écrire. Donc, ça répond vraiment à votre question. Ce qui m'intéressait, c'était qu'est-ce que c'est qu'écrire une phrase scénographique? comment ça marche. En gros, il a raison, je bégaye parce que j'arrive pas à écrire une phrase. Ça fait 10 ans que j'essaie d'en faire une. Et j'ai des soucis. Et donc, je suis allé voir d'autres gens qui arrivent à le faire. Des vidéastes, un plan séquence, c'est une phrase. Une mise en scène, c'est une phrase. C'est plusieurs phrases. Donc, je vais voir. Et je vais voir de près. Et ce qui me plaisait, c'était de le voir de dedans. Mais comme poète, il a accepté, Cyril, que j'y sois sans faire l'acteur, sans vouloir faire le comédien, comme écrivain.
Et je retourne ma question. Est-ce que, dans quelle mesure, vous vous êtes laissé agir par l'écriture de Jérôme Gamme?
Je répondrai un petit peu en miroir. C'est-à-dire que l'écriture de Jérôme, bon, je la connais depuis un petit moment déjà, parce qu'on s'est rencontrés. C'est une invitation que j'y ai faite, et c'est pas pour rien. Elle est déjà, il y a une chose qui est très très... C'est mon regard là-dessus. Je pense que Jérôme, quand on parle de bégaiement, à mon sens, Jérôme est vraiment à l'orée d'une langue qui pose la question du numérique aujourd'hui pour moi. C'est-à-dire, à un moment donné, le brouillage, le bégaiement que peuvent produire les machines. Quand il parlait d'une machine à écrire, j'irai plus loin. Pour moi, c'est maintenant, on est quasiment sur du digital avec l'écriture de Jérôme. Mais je me suis laissé agir simplement par le rythme. C'est très musical, le travail que fait Jérôme, et hypnotique aussi. Donc à un moment donné, je me suis dit, tiens, je viens de la pose sonore aussi. À Mixem, on arrive de la pose sonore au tout début, donc j'étais pas vierge non plus de cet univers-là. Il y avait deux choses, il y avait à la fois aussi le problème de la pose sonore, elle a ses limites avec le pupitre, en mon sens aujourd'hui. Aujourd'hui, la pose sonore est extrêmement liée à un pupitre et à un micro. Et parfois, ce dispositif, ce système-là, peut, moi, me poser des problèmes. C'est pour ça que, d'ailleurs, Jérôme est très souvent de profil, rarement de face avec le pupitre. Sauf au départ, je donne le code de départ. Et petit à petit, l'émancipation qu'on a eue de vouloir sortir Jérôme de ce dispositif-là est forcément liée à son écriture, parce que son écriture est aussi une mise en abîme, une interrogation de lui dans sa position d'auteur et d'individu, à la fois dans l'installation qu'il est en train de vivre avec nous. C'est qu'est-ce que je fais là avec vous, les Motus, Cyril Test, vous public, à vouloir tenter de parler de Don Quichotte? Qu'est-ce que je fais moi là, dans ma propre écriture, comment je n'y arrive pas, comment j'y arrive, comment je trouve, quels sont les... Et à partir de là, j'ai eu nécessité de le faire sortir, de l'extraire en tous les cas, de son dispositif dit de lecture de départ, et d'y amener voilà, cette dimension-là.
Pour un tout petit instant, on change de territoire poétique. On est dans l'art poétique de Guy Vic. C'est un auteur qui avait fait sauter le prénom. Et le morceau d'aujourd'hui se dit « Dans la voix, je crois, sans pupitre » de Laurent Stocker de la Comédie Française. On écoute.
Tu voudrais bien avancer dans ton poème comme un ruisseau, sinueux, pas rapide. Et tu trembles de devenir comme un étang où tu pourrais, stagnant, ne plus t'y reconnaître. Il n'y a pas dans ce monde que les étangs. Pourquoi les voir ? Les chercher partout, y penser tellement. À quoi ça sert d'avoir tant écrit sur eux? Et sans savoir pourquoi. Toi, tu regardes le corbeau. Tu t'intéresses à ce qu'il fait sur les chaumes devant ta fenêtre. Lui, rien ne l'oblige. Il ne te regarde pas écrire. Je suis comme le lierre. J'aime grimper. Mais je n'ai pas de tronc, de mur où me coller. Pourtant, il me faut grimper. Alors, que faire? Je grimpe, même si ce n'est qu'en moi. Ce n'est pas facile d'être un mur, tout seul, entre deux propriétés. De temps en temps, le vent, un oiseau. Le mur ne peut écrire qu'au ciel, au tilleul, mais il sait, lui, qu'il écrit en incluant sa base. On n'en finit jamais avec la lune. On a beau la regarder, la peindre, écrire sur elle, lui parler, essayer de la caresser, lui tourner le dos, l'insulter, quand elle est là, elle nous verse son lait. Quand elle n'y est pas, son lait nous manque. I brought you something close to me. Nothing to do but believe.
Jérôme Gamme, c'est votre choix musical qui a été pioché au sort, donc c'est à vous de titrer. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre ?
On vient d'entendre Breathe de Télépop Musique.
Merci d'être venu avec ça. Il y a encore beaucoup de choses à dire. J'aurais bien dit plein d'autres choses sur Diaro. Utopico, merci beaucoup Vincent Leboeuf, Jérôme Gamme, Cyril Tess d'avoir été avec nous ce soir à 20h30 à la Gaîté Lyrique et demain à 20h30 à la Gaîté Lyrique. Merci à tous et bon ce soir et bon demain soir. Alors.
Merci.
Aujourd'hui, nous aurons pris des routes et reculé pour mieux passer le dos d'âne. Nous aurons chevauché Rossinante rien que de lumière dessinée. Nous aurons considéré de près l'art poétique de Guy Vic. Ok, on refait tout demain en différent. C'est pas mal pour un jeudi. Pour emporter cette émission avec soi dans son cœur, on se rend sur le site internet de franceculture.fr, on clique en haut à droite sur l'onglet podcast, on dit oui, je le veux, podcaster, pas la peine de crier automatiquement. Et normalement, on est heureux, rien n'empêche au passage de laisser un message. Aujourd'hui, aux manettes, Jean-Frédéric, tu reviens quand tu veux. Merci à Laurence Courtois, Marguerite Gâteau, Pauline Ziadé des Fictions, Anne-Laure Chanel a réalisé cette émission tandis qu'elle fut, comme à l'habitude, préparée par Cyril Baer et Claire Poinsignon. Le Petit Prince a dit, revenez vendredi.